France Culture.
Agnieszka Holland, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve pour le deuxième épisode de Ces Awanu qui en compte 5. J'ai intitulé cette deuxième émission « À l'école de Prague » parce que nous allons suivre votre formation après avoir parlé dans le premier épisode de votre famille, de vos parents, de vos origines, de vos multiples identités. Vous avez donc choisi l'art cinématographique. Mais alors comment ? Parce que dans le premier épisode, vous nous parliez de vos lectures, de la façon dont notamment votre mère vous a initié à la littérature. Mais le cinéma, il est venu quand, comment ?
Le cinéma était toujours présent parce que quand même, on est allé beaucoup au cinéma. Depuis mon enfance, on m'a amené pour voir des films. Et c'était toujours une expérience très forte, très sensuelle. Et mon père m'a amené plusieurs fois aussi. Il a aimé le cinéma, il a aimé le théâtre, aussi la musique. Il m'a amené au conservatoire de la musique, il m'a amené au théâtre, il m'a fait découvrir le théâtre de Tchekhov, par exemple. Et aussi, aux premières des films polonais, il m'a amené assez souvent. Et c'était des années 60 quand le cinéma était vraiment l'art la plus innovatrice de tous les autres art existant, je pense. Chaque film que j'ai vu, c'était un peu comme une nouvelle aventure. Mais j'ai voulu être peintre. Et j'avais quelques petits succès avec mes dessins qui étaient primés dans les petits concours pour les dessins des enfants. Et quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré un jeune homme de mon âge et de ma taille, ce qui était rare parce que je suis petite. Il était encore plus petite. Mais c'était un génie, ça veut dire, c'était un peintre génie, un génie, un enfant précoce, on dit. Et d'ailleurs, il a suivi seulement les cours spéciaux, pas l'école ordinaire. Et moi, j'ai vu ce tableau et j'étais complètement éblouie. Je trouvais que vraiment c'est génial. On est sympathisé pendant 2 mois, on sortait, comme on dit. Mais il était un peu spécial. Je pense aujourd'hui, on dira qu'il était dans le spectrum. Parce qu'il a communiqué dans des façons très peu verbales.
Oui, le spectre neuro-atypique. Mm-hmm.
Et après environ 3 mois ou 2 mois, je ne me souviens plus, hein, j'ai pris le courage de lui montrer mes dessins. Et il les a regardés pendant 40 minutes environ, en silence, très attentivement. Et après, il m'a dit, c'est pas mal pour une femme. Et c'était la première fois quand j'ai entendu cette phrase, que c'est pas mal pour une femme. Et j'étais en colère, bien sûr. Hein. Mais après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que, pas à cause de la femme, mais que dans certaines façons, il a une raison que c'est pas mal. Et pourquoi c'est pas mal et pas génial? Parce que ça n'exprime pas toute moi. Et je me suis posé la question, toute moi, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour vraiment m'exprimer totalement? Et je me suis dit qu'il me faut l'expression visuelle, c'est sûr, c'est très important pour moi. Et il me faut raconter des histoires. Mais c'est mettre en scène de cinéma. Moi, je suis exactement mettre en scène de cinéma. Et depuis, j'ai commencé à me préparer au concours dans l'école de cinéma.
Donc, vous vous êtes formé pour pouvoir intégrer d'abord la célèbre école de Lodz, où ont étudié Wajda et Polanski notamment. Mmh. Mais pour ça, Agnieszka Holland, vous constituez, vous aviez déjà une base de culture cinématographique, nous vous avez-vous dit, mais à ce moment-là, vous constituez une énorme culture cinéphilique à raison d'une vingtaine de films par semaine, ce qui fait qu'au bout d'un an, vous aviez déjà dans un cahier noté tous les quelques 200 films que vous aviez vus. C'est ça?
Oui, mais même plus, parce que dans mon cahier, j'ai essayé de regarder tout qui était accessible sur n'importe quelle forme. Et quand même, dans la Varsovie communiste, paradoxalement, on pouvait voir beaucoup de films, et beaucoup de très bons films aussi. Hein. Et je suis devenue une fan d'Agnès Varda, parce que j'ai vu ce film, le premier film, c'est le premier film, Le Bonheur et Cléo de
5 à 7.
Et à la fin, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps le carnet de Danet, où j'ai mis mes films préférés de Danet. C'était 250 films préférée que je notais. C'est ce qui m'a fait un peu triste, parce qu'aujourd'hui, si je trouve 3-4 par l'année, c'est déjà bien. Mais à l'époque, j'ai adoré de son film. Et je ne sais pas si le cinéma est devenu beaucoup pire ou moi, je suis devenue blasée. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir cet émerveillement de cinéma que j'ai à l'époque.
Alors, en tout cas, forte de cette culture, vous entrez à l'Académie du cinéma de Prague, qui est FAMU, moi je crois qu'on dit, FAMU, hein, la FAMU, où vous êtes entrée dans cette école. Je crois que vous êtes entrée même la première, non? Vous n'avez pas...
Oui, j'ai fait le concours, j'étais notée sur première place. Et j'étais aussi la plus jeune, mais j'avais 17 ans, je n'avais pas encore 18 ans.
Et qu'est-ce que vous y avez appris à la FAMU, à l'Académie de cinéma de Prague?
FAMU, c'était une école qui, je pense, était assez bien, mais dans
très,
l'école,
très côté.
Oui, mais dans l'école de cinéma ou dans toutes les écoles artistiques, c'est très bien si vous tombez sur un professeur qui vous inspire, mais ce sont surtout des collègues et la possibilité d'essayer de faire des choses et de pouvoir de se concentrer pendant une période assez longue, quelques années, 5 ans. Sur les choses que vous voulez faire, et sur vous-même, et sur ça qui est important, et faire une vraie échange avec les autres. Mais pour moi, c'était plus que ça, parce que c'était vraiment une initiation un peu à tout. C'était mon initiation cinématographique, artistique, mon initiation érotique, ou d'amour. J'ai rencontré mon ex-mari, ça veut dire un prochain mari là-bas, des autres amours, entre-temps. Je me suis engagée dans l'activité strictement politique.
Et puisque je disais que, en tous les cas, à ces époques-là, la politique n'était jamais loin. À Prague, vous aviez 20 ans en 1968. Nécessairement, la politique vous a rattrapé.
Quand le printemps de Prague a commencé, quand ils ont changé les premières secrétaires du Parti communiste, j'étais pas du tout intéressée, parce que j'en avais marre. Dans ma maison familiale, entre ma mère et mon beau-père et tous ses amis ex-communistes ou communistes, ils ont analysé sans cesse la situation au sein de la comité central des partis communistes, aussi bien en Union soviétique qu'en Pologne, que celui-là il est plus progressiste et celui-là il est plus stalinien, etc., etc. Moi, je trouvais cette criminologie totalement stérile. Et je me suis pas intéressée à ça. Ça veut dire, ça se passait, je pense, en janvier, ce changement. Après février, mars, j'étais pas intéressée du tout. Et un jour, je suis sortie, je me souviens très bien, je suis sortie de l'école après, je sais pas, après un cours. Et j'ai vu une manifestation, une démonstration très ludique et très différent de tout que j'ai vu avant, qui a marché sur les rues, qui, je me souviens maintenant plus de quoi s'agitait-il. C'était, en tout cas, c'était tel souffle de la liberté, et en même temps, c'était gai, c'était ludique, et que je pouvais pas les lâcher. Je suis allée avec eux. Et depuis, quand j'ai commencé de marcher dans cette démonstration, j'ai pas cessé jusqu'au, bon, quand c'était écrasé par les tanks.
En août.
Soviétiques.
En août de la même année. Donc, oui. Ce printemps, qui était un vaste processus de réforme de la libéralisation politique et sociale, entamé par Alexander Dubček. Et ça a duré 6 mois, puisque ça a commencé effectivement en janvier et que dès le mois d'août, même plus que 6 mois, du coup, hein.
Oui,
8 mois.
8 mois.
8 mois.
Mais ça continuait quand même après l'intervention soviétique.
De Brejnev et du pacte de Varsovie.
Encore, je pense, en moins 6 mois, ça, et on avait encore d'espoir. Hein. Les gens avaient encore une espèce d'énergie d'espoir. Mais c'est Kundera qui a décrit ces périodes comme le carnaval de la liberté. C'était un carnaval, c'était gay. Et cette liberté-là qu'on a cherchée ou dans laquelle on pensait qu'elle peut être réelle, ça touchait aussi l'art, ça touchait aussi le cinéma, ça touchait la littérature, la poésie, le théâtre, tout.
C'est un immense espoir.
Oui. Surtout que la déstalinisation en Tchécoslovaquie est arrivée très très tard. Et c'était pour moi une expérience très forte d'être partie de ce moment-là. En même temps, quand les temps sont venus, le dirigeant tchécoslovaque était arrêté par Brejnev et amené à Moscou. Là, ils ont fait sur eux le chantage et les menaces. Et quand ils sont revenus, ils étaient déjà brisés, même s'ils ont essayé encore de faire des choses. Et c'était Dubček, le premier secrétaire de parti, qui a commencé involontairement, je pense, ce grand changement. Et il a parlé à la radio après son retour de Moscou. Et je me souviens très bien, j'étais au place de Venceslas. Quand les Amplions ont diffusé cette intervention de Dubček, il ne pouvait pas attraper le souffle, son voix était brisée quelquefois par les larmes. Mais moi, j'ai compris tout de suite que c'est fini. Les gens ne comprenaient pas encore, mais j'étais debout au milieu de cette rue et je pleurais parce que j'ai compris que ce sera très, très sombre.
Vous avez été arrêté, vous avez été emprisonné pendant cette période
Un peu plus tard, oui. On a fait encore la grève des autres écoles. Et la grève, c'était encore quelque chose de très, bon, très fort. On a occupé notre école pendant, je pense, 2 semaines. Il y avait des gens qui ont venu nous voir, les dirigeants des partis, les artistes. Et comme ça, j'ai rencontré pour la première fois Václav Havel.
Futur président, futur président de premier ordre.
Mais après, paix en paix, surtout au moment de la mort par suicide, par ses mollets d'étudiant tchèque Jan Palach.
Le 16 janvier 1969.
Oui, à ce moment-là, j'ai compris très fort que les gens, parce que c'était très intéressant, quand il a posé quelques conditions aux autorités qui étaient assez réelles à faire, mais bon.
En fait, c'était un petit groupe d'étudiants, dont Jan Palach qui était étudiant
en réalité,
histoire.
Mais en réalité, c'était pas un groupe. C'était lui seul.
Oui,
mais on a parlé, on a cru qu'il y avait.
Voilà, on a cru. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la série que vous avez faite bien plus tard en 2013, Agnieszka Holland, Sacrifice, The Burning Bush, qui porte sur l'après immolation de Jan Palach après 1969, où on voit dans ce premier épisode justement tous ces étudiants en grève dans les écoles d'art et la façon dont lui arrive sur la place Venceslas. S'immole pour protester contre l'occupation du pays, devenant un immense symbole de résistance, encore aujourd'hui. Mais effectivement, il laisse une lettre où il dit « Si vous ne respectez pas ces conditions, plusieurs
oui. Je suis ensuite. La flamme numéro un, voilà. Il y a les
Je
autres
la torche
flammes.
Numéro un. »
On a cru à ça, on a parlé même qu'une fille de notre école est numéro 2 ou 3, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ça, il l'a inventé. C'est très intéressant, on l'a appris très tard, on a cru assez lentement. Mais en tout cas, sa mort a réveillé une énorme vague de protestations, de la solidarité,
du chagrin,
national. Mais quand un mois après, un autre garçon que je montre aussi dans cette série a fait la même chose, personne n'a voulu pas parler. J'ai compris que les gens ont compris que si la liberté, ça veut dire risquer ma vie, c'est mieux de ne pas avoir la liberté. La vie est plus importante que la liberté. Et cette conclusion-là a duré 20 ans, hein, 20 ans de la normalisation. Et moi, je me suis un tout petit peu engagée en aidant les autres étudiants, aussi des gens d'opposition polonaise et tchécoslovaque. Et à certains moments, j'étais arrêtée et emprisonnée pendant 4 semaines. Et après, d'ailleurs, j'étais accusée. Il y avait procès, des procès même. Et bon, c'était une expérience très intéressante. Ça m'a appris des choses sur l'humanité et sur les façons comment le conformisme gagne toujours, s'il n'y a pas vraiment l'espoir réel. à quel point les gens sont faciles à se résigner et comment c'est facile de les faire oublier des valeurs auxquelles ils ont cru encore il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques ans.
C'est ce qu'on voit dans Sacrifice, enfin dans The Burning Bush, qui est une mini-série en trois parties. C'est vraiment une anatomie de la résignation, hein, comment l'oppression peut se normaliser et comment chacun ensuite peut choisir de se résigner ou d'agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve constamment, je crois, quasiment constamment dans votre œuvre, Agnieszka Holland.
Oui, mais je pense que c'est une expérience qui m'a formée assurément. Et dans Burning Bush, Sacrifice, je suis très fière de cette série parce que je pense qu'on a touché quelque chose de très vrai et assez profond hein, sur cette expérience-là, mais pas seulement sur cette expérience-là. Après, en Pologne, j'ai fait par exemple un film historique de la révolution de 1905.
La fièvre. On parlera dans l'épisode.
Qui est exactement en la même description de cette trahison de la révolution et la façon comment la révolution mange ceux qui étaient en premier rang pendant la révolution.
En plus, ce film est non seulement important parce que c'est l'un de vos premiers films long métrage réalisé en 1981, mais il a été interdit. On va y revenir. Il a été interdit après l'état de siège en Pologne. Mais justement, la Pologne, vous y retournez, Agnieszka Holland. Vous y retournez après Prague. C'est une période un peu compliquée du fait de votre engagement. Vous vivez un bras de fer avec les autorités de l'époque qui dure plusieurs semaines. Il a fallu l'intervention, si je ne m'abuse, de trois cinéastes hommes, certains amis, certains professeurs, déjà connus comme Andrzej Wajda, comme Krzysztof Zanussi, comme Kieślowski. Pour que vous puissiez entrer en Pologne et être un peu tranquille. D'ailleurs, Wajda a même proposé de vous adopter.
Oui. Dans ce moment-là, Andrzej Wajda, comme vous dites, est devenu le chef d'une groupe de la production parce que le cinéma polonais s'est divisé par le groupe de production qui était dirigé par des metteurs en scène de renommés metteurs en scène. Et il a commencé de faire le recrutement des membres de cette groupe. Paradoxalement, ses contemporains n'ont pas voulu le joindre parce qu'ils ont dit à Wajda, il pense qu'il est le meilleur, il va s'occuper de ses affaires à lui, il va pas s'occuper de nous, de pas lutter pour nos films. Et il était assez sceptique et comme ça, il a pris plusieurs jeunes qui ont sorti de l'école de cinéma. Il a aussi accepté moi. Mais il savait pas à quel point ce sera difficile de faire les autorités communistes de m'accepter.
De leur
comme
faire accepter que vous soyez là aussi. Ouais. Oui. C'était au moment où, en tous les cas, lui allait tourner Wajda, comme vous dites, allait tourner L'Homme de Marbre, qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes en 1977. Bon, vous deviez être son assistante. Finalement, vous avez réussi à travailler sur ce film de façon plus officieuse. Quel souvenir vous en avez de ce tournage?
Ce film était, ce scénario était censuré pendant 13 ans et finalement il y avait un ministre de la culture qui était beaucoup plus libéral. Il a pris le risque de le greenlighter, de le mettre dans la production. Et dans ce moment-là, Wajda m'a proposé d'être son assistant parce qu'il a vu une pièce que j'ai dirigée au théâtre, il a beaucoup aimé, il a repris un peu la foi en moi. Entre-temps, pendant des années, 3 ans ou 4 ans, j'ai entendu le moment quand un de mes scénarios sera accepté, que je pourrais tourner. Mais j'étais ravie d'être son assistant sur ce projet-là. J'ai commencé, mais après une semaine de mon travail, est venu un ordre de la partie communiste que c'est absolument impossible que moi je serais employée sur ce film-là et que mon nom ne peut pas être associé avec ce film tellement à risque. Wajda et son équipe se sont mis en grève parce qu'il a dit que je peux comprendre que je ne sais pas la censure. N'accepte pas ce scénario, mais c'est à moi de décider qui est mon collaborateur dans la production. Mais en tout cas, il s'est mis en grève et il était supporté aussi par les autres cinéastes, l'association des cinéastes, Zanussi, Kieślowski, Kawalerowicz. Et après quelques semaines, les autorités ont dit, OK, on ne veut pas qu'Agnieszka Holland sera associée à ce film-là, mais par contre, on peut greenlighter ces scénarios. J'avais un scénario à la télévision polonaise et l'autre dans le ministère de la Culture pour un long métrage qu'on a dû faire à trois.
Greenlighter, ça veut dire on donne son accord pour la...
Greenlight, ça veut dire qu'il était mis en production. Et bien sûr, pour moi, c'était génial parce que j'adorais être l'assistante de Vaïda sur ces films-là, mais en même temps, ma rêve, c'était de faire mes propres films. Comme ça, j'ai commencé de faire mes films en Pologne. Les premiers ont eu certains succès. Après ça, bon, c'était plus facile de continuer. Et oui, à ce moment-là, Vaïda a compris que c'est pas mes scénarios qui peut-être plaisent pas, que c'est moi qui est censuré, moi comme personne, comme quelqu'un qui porte ce nom-là. Et à ce moment-là, il a dit qu'il sera heureux de m'adopter, de me donner son nom à lui.
Et c'est ce qui s'est passé?
Non, mais parce que non, j'étais mariée à l'époque. Je lui dis, écoutez, si je porte toujours le nom Holland, c'est une espèce de défi. Contre les autorités qui ont, dans certaines façons, assassiné mon père. Je vais porter son nom. Et je pouvais changer mon nom quand je me suis mariée, devenir Adamic, c'est le nom de mon ex-mari. Et il a compris ça aussi. Bon, on est après devenus très proches. Moi, j'écrivais certaines scènes ou certains scénarios pour lui.
Par exemple, sur Danton?
Sur Danton, j'ai écrit plusieurs scènes, oui. Jean-Claude Carrière n'était pas content au début, mais après, il était content quand il a vu ces scènes réalisées. Je connaissais très bien ce que Vaïda peut faire avec l'enthousiasme et ce qu'il fait parce qu'il faut le faire. Je savais comment lui écrire une scène qui l'inspire. Voilà. Mais j'ai écrit un scénario sans anesthésie. C'est le scénario que j'ai écrit entièrement pour lui. Korczak, c'était aussi mon scénario. Et dans les autres films, j'ai écrit pas mal de scènes. Ah, Une amoura en Allemagne, j'ai écrit aussi, co-écrit.
L'Homme de fer,
j'ai écrit beaucoup de scènes dans L'Homme de fer. Ouais.
Alors, L'Homme de fer, c'est aussi un film très politique, puisque c'est un film sur la grève des ouvriers du chantier naval de Gdansk en 1980. Grève dirigée par un certain Lech Walesa, à l'origine du premier syndicat indépendant du Bloc de l'Est, oui. Solidarność.
C'est qu'il était politique, ça, le film était fait pratiquement au même moment quand les événements se sont produits.
C'était contemporain des
événements. C'est très, très contemporain.
Vous avez travaillé sur ce film-là aussi ou vous étiez dans les vôtres à ce moment-là?
J'étais dans les miennes parce que j'ai réalisé Une femme seule en ce moment-là, mais j'ai écrit pas mal de scènes pour Andrzej. Ouais.
Avant de parler de vos propres films, de toute façon, ce sera aussi l'objet des épisodes suivants, puisque à partir de maintenant, Agnieszka Holland, vous êtes devenue cinéaste. Quelle a été l'influence sur vous d'un réalisateur comme Vaïda?
Plusieurs choses. C'était une personnalité très généreuse, et très spéciale, très différente. Il a vu des choses vraiment dans sa façon à lui, parce qu'il avait toujours une façon de les voir différemment. C'était excitant. J'ai rencontré très peu de cinéastes qui ont cette espèce d'originalité d'esprit.
Vous évoquiez tout à l'heure Zanussi et Kieślowski, où je les évoquais au moment où vous êtes rentré en Pologne. Vous avez gardé des contacts avec eux? Quel type de relation aviez-vous avec eux?
Zanussi, c'était mon premier boulot au cinéma. Il m'a pris comme l'assistante. Il m'a jamais dit qu'il avait beaucoup de problèmes avec ça, avec les autorités. Et il a réussi de finalement me donner son boulot, ses boulots. Notre relation était différente parce que moi, j'étais très critique en face de lui. Je pense que j'étais la pire assistante que vous pouvez avoir. Ça veut dire que j'organisais des choses, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. C'était un film où il a fallu de faire beaucoup de recherches. Mais quand je l'ai observé sur le plateau, je pensais non, moi, je le ferais mieux. Je l'ai pas caché, à vrai dire. Je pense que c'est absolument insupportable. Et il a supporté tout ça. Et même, il m'a proposé après que je fasse un autre film avec lui, mais j'étais enceinte. Heureusement, je pense. Mais après, on est devenus vraiment des amis. Et il était d'ailleurs le producteur de quelques de mes films après mon retour en Pologne dans les années, dans les 21e siècle.
Et Kieślowski?
Ah, Kieślowski, il est devenu mon ami le plus proche. Très intime, ami vraiment avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai essayé de l'aider autant que c'était possible. Sa mort et surtout sa fatigue si rapide, parce qu'il est mort quand il avait 53 ans, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, bouleversée. J'ai perdu quelqu'un qui était irremplaçable dans le domaine de cinéma, parce que j'ai des autres amis qui n'ont pas de cinéastes avec qui je partage beaucoup, mais dans ce domaine-là, c'est lui seulement avec qui je partageais les choses concernant exactement qui nous sommes, comme le cinéaste, d'où nous allons.
Une façon de faire de l'art, une façon de faire du cinéma, un regard sur le...
Oui, le regard, la responsabilité de faire du cinéma, la morale de faire du cinéma, et aussi où chercher, comment chercher de se renouveler, comment chercher d'être en accord avec nous-mêmes et en même temps de chercher le nouveau public.
Alors, vous tournez votre premier film en 1979, Agnieszka Holland, les acteurs provinciaux, tout de suite prix de la critique au Festival de Cannes. Mais là, vous avez enchaîné les trois films. Acteurs provinciaux, La Fièvre, Une femme seule. Vous aviez une espèce d'urgence.
Oui, je sentais que ça ne va pas durer. Vraiment. Je pensais qu'il faut faire tant que je peux. J'avais plein de choses à faire. J'avais plein de choses à essayer, à exprimer aussi. Et ça marchait en même temps de faire, c'était beaucoup plus légère de faire les films à l'époque que maintenant. D'abord, quand on a fait les films dans les pays communistes, il n'y avait pas tous ces pépins de financement et machin. Il avait, au moment quand il y avait l'accord des autorités politiques pour faire ces films, on a reçu l'argent, on l'a fait. Personne n'a, bon. C'était beaucoup plus léger, il faut dire. Je dis pas que les communistes sont meilleurs, mais en tout cas, on avait beaucoup plus de la légèreté dans ce domaine-là.
Bon, un choix léger pour parler, s'il ne serait-ce que dans la fièvre d'un sujet historique et politique grave, quand même, puisque vous situez l'action pendant la révolution 1905, quand la Pologne est sous domination tsariste, et vous suivez un groupe de militants socialistes, anarchistes, polonais, qui tentent d'organiser un attentat à la bombe contre un responsable russe. Oui, à l'époque,
gouverneur.
Bon, donc le film a été interdit quand l'état de siège a été décrété par le général Jaruzelski en décembre 1981.
Oui, parce que ça parlait de gouvernement tsariste, mais tout le monde a dit bien sûr le gouvernement de Leonid Brejnev.
Absolument.
Oui.
Voilà, parce que vous filmez vrai, Agnieszka Holland, et cette façon de filmer l'histoire, la politique et de mettre une forme de caméra vérité dans vos films, c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant, l'épisode 3, quand vous êtes en France, puisque vous émigrez en France en 1981. Merci et à demain.
Merci, à demain.
C'était À Voix Nue avec Agnieszka Holland, réalisation Laurent Polleré, prise de son Nicolas Mathias, chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.